Merci d'écouter Radio Bonheur. 19h03, nous sommes aujourd'hui lundi, le 26 décembre. C'est la reprise des déchaînés du football, puisque les clubs professionnels reprennent dès ce soir avec la Ligue 2, avec notamment Guingamp qui se déplace à Nîmes, un match que vous pourrez vivre en direct, en intégralité, tout à l'heure dès 20h30 sur Radio Bonheur. Début de la rencontre à 21h, prise d'antenne à 20h30. Et le magazine des déchaînés du football, c'est maintenant, c'est la reprise. Reprise inhabituelle, hein, puisque habituellement, au mois de décembre, surtout fin décembre, on est plutôt dans la trêve des confiseurs. Et là, non, voilà, avec le Qatar et cette Coupe du Monde, eh bien, tout est décalé. Du coup, la reprise du magazine des déchaînés du football, c'est ce soir. Évidemment, on parlera tout à l'heure de l'En Avant Guingamp, premier match de cette seconde partie de saison avec un déplacement à Nîmes. Et pour démarrer ce magazine, tout d'abord, un bonjour à Gaëtan qui nous accompagne ce soir. Bonsoir Gaëtan.
Bonsoir Dominique, bonsoir à tous.
Alors Pierre n'est pas là ce soir.
Et non, un petit coup de fatigue, un petit coup de moins bien, il est absent et il va prolonger un petit peu les vacances et il nous rejoindra très vite.
Bon, c'est pas trop grave, je vous rassure, mais en ce moment, il y a une épidémie. Et voilà, donc on lui souhaite un bon rétablissement à Pierre s'il nous écoute, s'il peut, parce que je crois qu'il dort beaucoup.
Oui, donc peut-être qu'il nous écoutera, mais sur le podcast, et on le salue.
Alors on commence par les équipes pro hein, que l'on suit habituellement, à savoir Brest et Lorient, en commençant comme c'est la coutume, par Brest. Brest qui ne jouera pas ce soir, mais qui débutera son retour en Ligue 1 dès cette semaine.
Oui, ce sera mercredi soir à 21h, la réception de Lyon au stade Francis Leblay. Alors avec toujours la même question depuis que l'on s'est quitté lors du dernier magazine des déchaînés du football, avec quel entraîneur? Pour l'instant, pas de nouvel entraîneur au stade brestois. Ça fait maintenant presque 2 mois et demi que Michel Derzakarian a été démis de ses fonctions. Il y a eu du mouvement quand même hein, du côté de Brest, puisque Julien Lachuère n'est plus entraîneur des gardiens mais entraîneur adjoint. Avec lui, Bruno Grougy, à nouveau aussi entraîneur adjoint, comme c'était le cas par exemple sous l'ère Olivier Dalloglio. Et Christophe Revel, ancien coach des gardiens de Rennes notamment, eh bien, est arrivé au poste d'entraîneur des gardiens du stade brestois. Donc le staff est réorganisé. Yvan Bourgis est toujours évidemment dans cette équipe du staff technique, mais on attend bien sûr la nomination aussi du nouvel entraîneur.
Alors il faut nous rafraîchir peut-être la mémoire, parce que depuis un mois on a un peu oublié ce qui s'était passé à Brest. Brest a quand même réussi à gagner son premier match à domicile avant cette trêve hivernale, enfin cette trêve des confiseurs un peu décalée. Et ça va du coup un peu mieux du côté des Brestois.
Oui, parce que Brest a du coup passé la trêve au chaud, hein, sans être relégable. Premier non relégable, victoire 2-1 contre 3 juste avant la trêve, avec 2 pénaltys, même 3 d'ailleurs, parce que le deuxième avait été à retirer pour les Tizèf, qui l'avaient emporté contre un concurrent au maintien. Et c'est vrai que dans la foulée, on s'attendait à ce que y ait le nouvel entraîneur qui soit vite nommé du côté de Brest. Pour l'instant, on ne le connaît pas. Il y a des noms qui sont un petit peu sortis, mais rien n'a vraiment abouti pour l'instant, en tout cas. Et on attend évidemment.
Il y a eu quand même des tentatives, mais voilà. Ouais, mais vaine pour l'instant.
Oui, exactement. Ça n'a pas bougé de plus à ce niveau-là, sauf, on le disait, dans le staff où là, évidemment, ça s'est un peu consolidé avec l'arrivée notamment de Christophe Revel au poste d'entraîneur des gardiens. Évidemment, on va se diriger vers Jackie Le Gall pour parler du stade brestois 29, de l'actualité.
Le spécialiste de
en
de
général,
Brest.
Bien. Bien sûr.
Bonsoir Jackie.
Bonsoir Jackie.
Oui, bonsoir Dominique, bonsoir Gaëtan.
Alors ravi de vous retrouver Jackie pour, pas tout à fait cette deuxième partie de saison, parce qu'on n'a pas fini la première, mais pour la suite tout simplement de cette saison. Quelle est un petit peu l'ambiance générale à Brest, là, Brest qui a passé, on le disait, la zone rouge, la trêve en dehors de la zone rouge. Comment ça s'est un petit peu passé, cette longue trêve en raison de la Coupe du Monde?
Eh bien donc, pendant cette longue trêve, les joueurs ont eu d'abord 15 jours de vacances. Se sont retrouvés quelques jours à Brest avant d'aller passer un stage de 8 jours en Espagne. Voilà, et de faire un match amical contre Osasuna. Bon, perdu certes 3-0. Et un deuxième match amical, c'était jeudi dernier à Rennes. Perdu également 3-1. Mais bon, il y a dans ce groupe une bonne ambiance, une bonne osmose. J'ai pu les voir ce matin. Bon, il n'y a pas vraiment de doute. Les joueurs savent que ce ne sera pas quelque chose de facile, mais bon, il y a quand même un bon effectif à Brest.
C'est vrai que c'est ce qui avait un peu surpris aussi sur le début de saison, hein, de voir Brest dans cette difficulté au classement, parce que quand on regarde l'effectif sur le papier, il est quand même presque meilleur, on a envie de dire, que l'année dernière. Donc on s'attendait à avoir quelque chose de semblable. Le début a été compliqué, ça va un petit peu mieux, ça allait en tout cas un petit peu mieux avant la trêve, avec ce trio Bourgis, Lachuaire, Grougy pour assurer l'intérim, un trio qui est devenu un quatuor. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus, Jackie, aussi par rapport au match contre Lyon, quant à l'organisation finalement du Stade Brestois pour ce match mercredi soir?
Ben disons que les matchs précédents, c'était plus un 4-3-3. C'est une tactique différente en deuxième mi-temps à Rennes qui n'a pas vraiment convaincu, alors que la première en 4-3 avait été bonne. Donc il y a des chances qu'on s'oriente vers cette formule qui a permis quand même de prendre 7 points sur 15 en 4 matchs.
Ouais, et ça a permis à Brest de remonter un petit peu dans ce classement, avec donc du coup les quatre hommes là qu'on a cités tout à l'heure sur le banc de touche. Pas de nouvel entraîneur d'ici là, visiblement.
Non, pas de nouvel entraîneur, en tout du moins au moment où on se parle ce lundi soir.
Est-ce que des entraîneurs ont décliné l'invitation cet hiver, enfin pendant la période où les tractations ont eu lieu, ou est-ce que vraiment Brest n'arrive pas à attirer de nouvel entraîneur?
Alors, il y a des contacts effectivement qui n'ont pas abouti pour une simple raison, c'est que le club, en l'occurrence particulièrement Grégory Lorenzi, ne veut pas prendre un entraîneur avec 3 ou 4 adjoints, mais un entraîneur qui sera seul, peut-être avec un adjoint, de façon à être avec le staff qui est là à l'heure actuelle, qui a redonné confiance aux joueurs, changé l'ambiance dans le groupe et obtenu pour l'instant des résultats qui ne sont pas mauvais.
Et c'est la tendance évidemment du côté de Brest, et on attend la nomination du nouveau coach. Alors en attendant, il y aura ce match contre Lyon mercredi soir, avec visiblement pas mal d'absents quand même. On sait que Irvine Cardona sera suspendu parce qu'il a été un petit peu rattrapé par la patrouille avec la commission de discipline de la Ligue de football professionnel pour des paris sportifs. On sait que les joueurs et salariés des clubs n'ont pas le droit de faire des paris sportifs. Il fait partie d'un lot, hein, Irvine Cardona, à avoir été un petit peu rattrapé par rapport à ça. Donc suspendu pour 2 matchs, celui-là plus le déplacement à Monaco dimanche prochain. Il y a aussi quelques malades, hein, Jackie, dans l'effectif.
Oui, ce matin, Pierre Besse-Mélou et Jérémy Ledoran, même s'ils sont venus en entraînement après avoir regardé le médecin, étant plutôt grippés, sont repartis en fait chez eux. Voilà, hein, parce qu'on sait qu'il y a une épidémie à l'heure actuelle, donc c'était pas le moment non plus de éventuellement contaminer d'autres joueurs. Voilà. Et puis visiblement, ce n'est pas qu'à Brest qu'il y a ce genre de soucis.
Non, c'est vrai qu'on l'a vu un peu hein, dans différents clubs aussi. Alors, il y aura des absents. Et puis, il faudra attendre un petit peu pour voir la recrue, Kenny Lala, ancien défenseur de Strasbourg notamment, qui est arrivé pendant cette trêve. Mais comme le veut le règlement, Jackie, hein, il ne pourra pas jouer avant le mois de janvier, avant l'ouverture officielle du mercato.
Voilà, tout à fait. Peut-être qu'il pourrait jouer dimanche à Monaco le premier, si les papiers ont pu être faits en temps et en heure.
Ouais, pour le déplacement 1er janvier à Monaco, Monaco-Brest. Un calendrier quand même assez important pour les Brestois, parce que la réception de Lyon, le déplacement à Monaco, ensuite la Coupe de France à Avranches, et puis la réception de Lille aussi à Francis Leblay. Ça va démarrer sur un rythme assez soutenu finalement.
Oui, tout à fait. Bon, le rythme en soi n'est pas très inquiétant, qu'il y ait ce nombre de matchs répétés, puisqu'il y a eu comme une préparation d'avant-saison. Mais c'est surtout, effectivement, quand on regarde les équipes qui a affrontées. Bon, maintenant, en poule aller, Brest n'a pas été nécessairement mauvais contre les leaders ou les équipes premières de ce championnat.
Ouais, c'est vrai. Est-ce que, d'ailleurs, les quatre hommes actuellement en place, notamment Lachuaire et Grougy, se sont fixés un petit tableau de marche là, d'ici la fin de la phase aller, c'est-à-dire sur les quatre matchs de championnat à venir en termes de points?
Pas vraiment. Comme ils disent, ils prennent les matchs les uns après les autres, sachant qu'ils sont toujours là. Bon, peut-être qu'il y aura un entraîneur qui pourrait arriver entre temps, mais donc à partir de là, ils ne sont pas vraiment fixés de tableau de marche. Comme ils disent, ils répètent sans arrêt, au plus éclatant, ils ne disent pas aux joueurs, vous étiez dernier, on n'a que 16 points, et hop, ils prennent les matchs les uns après les autres.
Ouais, et comme vous le disiez, en plus, ils ne sont pas totalement intronisés non plus par rapport au nouvel entraîneur qui devrait arriver. D'ailleurs, quand on parle de nouveau coach, il n'y a pas de possibilité, Jackie, que ces hommes-là restent finalement et que le Stade Brestois passe par le système d'amende qu'a par exemple choisi le Stade de Reims?
S'il n'y a pas de nouvel entraîneur là qui arrive, il y a effectivement une amende par match.
Ouais, là, ça commence mercredi, hein, le système des amendes.
Ça commence mercredi, le système des amendes. Maintenant, s'il y a
c'est
pas
combien l'amende à chaque match?
25 000 euros.
Ah oui, quand même.
Ouais. Hein, mais il n'y a pas de salaire de coach à payer non plus.
Ouais, c'est ça, le salaire d'un entraîneur, ce sera sans doute un peu plus, finalement. Donc c'est vrai que c'est.
Enfin, il y a plusieurs matchs dans un mois.
Oui, il y en a en moyenne 4, ça fait 100 000 euros par mois, hein, on va dire. Mais c'est par exemple le parti pris hein, de Reims qui a confirmé Will Steele à son poste et qui n'a pas le diplôme. Et donc, pour Reims, il y aura des amendes à chaque match. Plutôt que de faire venir un entraîneur avec peut-être des adjoints, bon, ils ont choisi ce système-là. Comme l'avait fait Guingamp aussi, d'ailleurs, en Ligue 2, il y a quelques saisons avec Sylvain Didot. Mais en Ligue 2, les amendes sont deux fois moins chères.
Sont de 10 000 euros.
Ouais. Donc, bon, c'est un peu plus conséquent, évidemment, pour la Ligue 1. À quoi on doit s'attendre, Jackie, face à Lyon? Est-ce que on peut espérer être dans la continuité un petit peu de ce qui avait été proposé avant la trêve, avec notamment cette victoire contre Troyes, le succès aussi ramené de Clermont?
Oui, enfin, en tous les cas, le système et le principe de jeu devraient être le même. Après, il faudra voir Lyon qui a eu des résultats en dents de scie. Lyon qui a également perdu ses deux arrières latéraux au dernier match, avec un nouvel entraîneur arrivé récemment qui est Laurent Blanc, c'est pas n'importe qui. Mais bon, Lyon n'a pas été au meilleur de sa forme, et c'est une équipe pour laquelle on attend plus, qui a une grosse pression, d'autant plus que Lyon vient juste d'être vendu à John Textor, donc un Américain qui a pris le contrôle du club, en gardant quand même Jean-Michel Aulas comme président pendant 3 ans.
Ouais, voilà, c'est vrai.
On a de l'âge à fonctionner.
Ouais, le fonctionnement de l'OL qui se déplacera donc à Brest hein, mercredi soir. Est-ce qu'il y a en termes de fréquentation du stade, quelle capacité, quelle affluence on peut attendre pour ce match, Jackie, en pleine fête?
Ce sera peut-être presque à guichet fermé, et s'il ne reste plus une seule place assise dans les 3 tribunes. Maintenant, la tribune placielle, comme son nom l'indique, eh bien, en fonction du temps qu'il peut y avoir à Brest. Hein, mais il reste à peine 600-700 places. Il y a une opération qui était faite notamment avec des étudiants et autres qui a aussi bien marché. Donc le record qui était de 13 700 spectateurs contre Marseille risque fort d'être battu mercredi soir.
Et le Boxing Day à la française va donc marcher du côté de Brest?
Complètement. D'ailleurs, quand j'ai été posé la question, Julien Schuer, surtout par rapport à dimanche, hein, c'est la première fois à ma connaissance qu'on voit un match un jour de l'an. Comme il a dit, déjà on fera réveillon entre nous, mais on ira se coucher à minuit. Et puis, quand on a la chance d'exercer un métier comme on le fait, on ne peut pas se plaindre, bien au contraire.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et les Brestois ne s'en plaignent pas, au contraire. Il y aura beaucoup de monde à Francis Leblay dans 2 jours, hein, mercredi soir, match à 21h. Brest-Lyon à suivre évidemment sur Radio Bonheur. Merci beaucoup, Jackie Le Gall, d'avoir été avec nous ce soir. Et puis, on se retrouve mercredi, évidemment.
Oui, à Francis Leblay. On se retrouve
au commentaire mercredi en direct. Absolument.
Bonne soirée. À mercredi, Jackie.
Bonsoir, salut
mercredi,
Jackie.
Au revoir.
Merci. Les réclames, mais on se retrouve juste après.
On en parle. Saviez-vous qu'EDF accompagne ses clients pour faire plus de 10% d'économie d'énergie? Sur Internet, avec votre appli mobile EDF et moi, ou par téléphone, avec l'un des 5000 conseillers clients tous basés en France, EDF est là pour vous aider à mieux comprendre votre consommation d'énergie et agir sur vos dépenses avec à la clé des économies sur la facture.
Suivi de consommation et modification de votre comportement sur edf.fr/économie-énergie. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'au 10 janvier, pour l'achat d'un produit de linge de lit actuel, le deuxième est offert. Avec une offre pareille, toute la famille rêve de dormir dans du linge de lit tout beau et une housse de couette toute neuve. De quoi commencer l'année en douceur. Auchan, avec plaisir. Par exemple, 13,99€ au lieu de 27,98€, les deux draps housse actuels 90 par 190 cm. 100% coton, 57 fils, soit 6,99€ le drap housse. Coloris au choix, valable dans vos magasins Auchan participants et sur Auchan.fr.
EDF.
Vous voyez ce radiateur là? Ah ben non, évidemment. Eh bien sachez que le radiateur devant moi fonctionne et pourtant je fais 7% d'économie sur le chauffage. Mais quel est ce prodige, me direz-vous? Eh bien j'ai juste baissé la température d'un degré. Ça fait partie des gestes utiles EDF pour faire des économies et préserver le système électrique. Je baisse, j'éteins, je décale.
Découvrez les gestes utiles pour vous et pour tous sur edf.fr/gestes utiles.
Source ADEME, l'énergie est notre avenir, économisons-la.
Aldi.
Dans la vie, on n'a pas tous un cousin qui nous dit
« Waouh, méga bon plan !»
Car en ce moment, profitez des remises immédiates jusqu'à moins 20% sur une sélection de produits festifs de la gamme Excellence. Oui, ce « Waouh, méga bon plan !» qui vous permettrait de gâter encore plus vos amis grâce à nos petits prix. Mais puisque maintenant on vous l'a dit, vous pouvez y aller vous aussi.
Aldi, place aux nouveaux consommateurs.
Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Info sur aldi.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
Intersport.
Tous pour motiver.
Les Intersport Day, c'est...
maintenant.
Et nos clients vont être...
super contents.
Jusqu'au 10 janvier, bénéficiez de moins 30% sur une sélection de vêtements et chaussures. Offre réservée aux membres de la team Intersport.
Intersport, le sport, la plus belle des rencontres.
Conditions, services et magasins participants sur intersport.fr.
Les déchaînés du football, 19h18, presque 19 minutes. On reste dans le Finistère, même si on quitte la Ligue 1 pour parler maintenant de la 3e division du championnat national avec Concarneau, l'US Concarneau, qui reste toujours nettement leader de ce championnat.
Ouais, alors un petit point d'avance sur le deuxième, mais leader les Concarnois, le national qui est en pause pour l'instant, qui suit un calendrier pour le coup habituel, le national qui a joué pendant la Coupe du Monde et qui est en trêve hivernale actuellement. Concarneau leader avec 30 points en 16 journées et pour parler tout simplement de l'USC, on va prendre des nouvelles de Dylan Lemay qui est journaliste au Telegram et qui va nous parler de cette équipe de Concarneau qu'il suit toutes les semaines finalement et au quotidien. Bonsoir Dylan.
Bonsoir Gaëtan, alors je rectifie, c'est à Ouest-France.
Oh pardon, l'erreur.
Bonsoir.
J'ai eu le doute au moment de le prononcer, mais vous faites bien de rectifier à Ouest-France. Dylan, on est là bien sûr pour parler des Thoniers. Est-ce que après la saison dernière, qui avait été très bonne, mais qui sur la fin avait vu Concarneau manquer la montée, est-ce que c'est une surprise ou pas du tout de les voir là, d'être dans la continuité de ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'il n'y a pas une surprise de ne pas connaître de contre-coup?
C'est une demi-surprise, j'ai envie de dire, parce qu'il y a une forme de logique de les retrouver aujourd'hui en haut de tableau. Alors, si haut, peut-être pas, mais dans la lutte à la montée, il y a une certaine logique. Vous avez parlé de continuité, Gaëtan, et le travail que fait Stéphane Lemignan est formidable, et les joueurs adhèrent à son projet, et lui choisit des joueurs et des hommes aussi, plus que des joueurs, qui rentrent dans son projet. Donc aujourd'hui, on sait que les choix sportifs sont bien faits et que dans tous les cas, Concarneau tournera plutôt bien. Alors aujourd'hui, par contre, ce qui est une surprise, c'est de les retrouver si haut avec autant d'avance, notamment, je pense, sur le troisième, même s'ils ont un match de plus, et face à des grosses formations qui ont deux, voire trois fois plus de moyens qu'eux, et des effectifs, ils sont armés jusqu'aux dents, des effectifs avec 5-6 joueurs de plus capables de jouer et d'être au niveau du national. Je prends un exemple, quand ils avaient affronté le Red Star début décembre, le Red Star avait joué le lundi et avait joué le lundi contre Dunkerque et rejoué le vendredi contre Concarneau, et le Red Star avait changé 75% de son effectif par rapport au lundi. Donc ça montre bien la différence qu'il y a entre les deux équipes. Donc j'ai envie de dire que c'est une demi-surprise de retrouver Concarneau aujourd'hui aussi haut en national.
Concarneau qui, alors, avant la trêve, a connu un petit coup d'arrêt, défaite de 0 à Martigues et 0-0 à Guy Piriou contre Le Puy. Mais c'est vrai, quand on regarde le classement, il y a notamment 5 points d'avance sur le Red Star que vous citiez, Dylan. 5 aussi sur Dunkerque, qui est un relégué de Ligue 2. 7 sur Le Mans, qui est en 6e position. Il y a un petit trou de fait avec certaines équipes. Et un trou, notamment, grâce à un homme, Amin Boutra, qui a été vraiment la sensation de cette première partie de saison.
Tout à fait, bah, ça a été la révélation de ce championnat national sur ce début de saison. Il est meilleur buteur du championnat avec 8 buts. Je crois qu'il a 5 passes décisives aussi, donc il est impliqué sur quasiment la moitié des buts de Concarneau sur le début de saison, ce qui est quand même assez impressionnant. Personne ne l'attendait vraiment à ce niveau-là. Il avait montré des qualités l'année dernière, technique notamment. C'est un feu follet, c'est quelqu'un qui est capable de faire exploser une défense par ses qualités techniques. Mais là, il a trouvé une forme de régularité à un niveau quand même assez haut dans les performances sur quasiment toute la saison. Il a juste connu un petit trou, j'ai envie de dire, début décembre. Mais ça s'explique aussi par l'enchaînement des matchs. Il a quasiment joué tous les matchs. Et les adversaires qui commencent à le connaître aussi. Donc il y a eu une forme de frustration, notamment sur la fin de match face au Puy lors de la dernière journée. Donc on va voir si le repos et la trêve va lui faire du bien au retour pour la phase retour. Parce que Concarneau aura bien besoin d'un Amin Boutra à ce niveau de première partie de saison pour tenter de enfin monter en Ligue 2, ce que le club, même s'il ne le dit pas, espère secrètement.
Ouais, ouais, forcément, hein, quand on aligne une deuxième saison comme ça dans le haut de tableau, on a envie de, d'y aller cette fois du côté de Concarneau. Amine Boutra, c'est 8 buts dans ce championnat de national. Est-ce que l'on peut craindre aussi certains départs dans cette équipe de Concarneau, notamment de Boutra, au mercato d'hiver, de par les performances affichées? Est-ce que c'est un peu la crainte aussi, quelque part?
Non, je pense pas. Même si aujourd'hui, voilà, je pense que comme nous, vous avez tous vu les rumeurs d'équipes de Ligue 2, même de Ligue 1, qui sont intéressées à lui. Il peut partir cet été, mais il restera jusqu'à la cet hiver, pardon, mais il restera jusqu'à la fin de la saison. Ça, quoi qu'il arrive, il a envie de finir la saison du côté de Concarneau. Maintenant, le mercato fait que peut-être ils seront obligés de le vendre cet hiver pour avoir une année de transfert, mais ça se passe entre les clubs, et que ce soit lui ou même les autres joueurs, il y a une volonté de continuer, de finir le travail qui a été commencé cette saison, de finir le travail inachevé la saison dernière, et puis voilà, ils ont envie de continuer aussi avec Stéphane Lignan. Stéphane Lignan, aujourd'hui, les joueurs l'adorent et ont envie de rester aussi pour lui, pour ce qu'il propose, que ce soit aux entraînements ou en match. Et ça fait la différence d'avoir un coach qui a un plan de jeu et un projet de jeu et des valeurs bien ancrées dans cette équipe qui font que les joueurs sont performants aussi.
Et qu'est-ce qui pourrait faire cette saison que Concarneau aille au bout et ne trébuche pas dans les dernières journées?
Peut-être l'effectif, déjà l'expérience de la saison dernière. Peut-être qu'ils vont avoir pas se monter la tête non plus, parce que peut-être à un moment donné l'année dernière aussi. C'était une des premières fois que Concarneau était en aussi bonne position pour monter, donc ils vont peut-être garder cette expérience-là, de ne pas s'enflammer, de garder ses moyens, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont restés mine de rien de la saison dernière, même Fadel Koumiti qui est revenu il y a un mois, et puis l'effectif qui est, je pense, de meilleure qualité. Il y a des joueurs comme Gaouf Traoré qui n'était pas présent la saison dernière et qui est vraiment un des tout meilleurs milieux de terrain, même s'il est encore jeune, un des tout meilleurs milieux de terrain de national. L'attaque, franchement, il possède le meilleur buteur actuel du championnat national, le meilleur passeur avec Antoine Rabia, et l'ex-meilleur buteur et meilleur joueur du championnat de la saison dernière, c'est Delcoudici, plus Fessal Manaï, qui est un travailleur sans ballon incroyable. Et tous ces joueurs-là font que la mayonnaise peut prendre jusqu'au bout, je pense. Il faudrait juste pas qu'il y ait une cascade de blessures, parce que l'effectif n'est pas ample, comme je disais tout à l'heure, par rapport à certaines équipes de national, comme le Red Star, comme Versailles, qui sont en embuscade.
Ouais, c'est ce qui avait aussi fait un peu défaut l'année dernière, notamment quand Antoine Rabillard s'était blessé à 2-3 mois de la fin de la saison. Il y a aussi le fait que Stéphane Lemignan s'appuie souvent sur un noyau dur de joueurs sans vraiment beaucoup faire tourner. Peut-être un peu plus cette année.
Non, pas forcément. Il y a beaucoup. Ça tourne sur 14, voire même peut-être maintenant 15 joueurs, 15-16 joueurs avec les arrivées d'Axel Lurie, l'ancien Guingampé qui est arrivé. Mi-septembre, et Fedel Koumiti, ça va, il y aura un peu plus de turnover, mais effectivement, c'est peut-être le risque à un moment donné de voir un essoufflement, parce que Concarneau n'a pas les moyens d'aller prendre 20 joueurs, 21 joueurs, 22 joueurs pour au niveau du national, avec l'expérience du national et capable d'être titulaire en national comme le Red Star ou Versailles. Et effectivement, peut-être que le fait de s'appuyer, c'est une force d'un côté parce qu'il y a des automatismes, mais ça peut être une faiblesse dans l'accumulation de la fatigue et le manque de solutions à un moment donné pour débloquer des matchs. Et on a vu des matchs sur la première partie de saison, je pense au Puy, où c'est peut-être l'un des meilleurs matchs au niveau offensif, où ils sont créés le plus d'occasions et ça tournait vraiment bien. Il a juste manqué un peu de réussite et ils sont tombés sur un excellent gardien, j'ai oublié son nom, c'est le gardien remplaçant qui me décide. Ou le match contre Paris 13, où voilà, il bute sur la défense, il arrive à revenir dans la toute fin des arrêts de jeu. Peut-être qu'à un moment donné, peut-être que ce manque d'effectifs manquera, et ce petit jus en plus aussi qu'ont les autres équipes pour faire rentrer ces joueurs-là. Mais pour l'instant, on n'est pas encore là. Peut-être que la trêve aussi va faire du bien. Il y a quand même 3 semaines de trêve, c'est pas rien en national, parce qu'on sait qu'il y a très peu de week-ends de repos aussi en national, dû au fait du championnat qui est dense.
Et selon vous, Dylan, qui est le plus gros concurrent de Concarneau dans cette montée? Est-ce que c'est Versailles, le promu avec ses gros moyens financiers? Est-ce que c'est plutôt le Red Star, Dunkerque, Le Mans, qui sont aussi des grosses écuries de ce championnat? Ou Martigues, l'une des surprises aussi de ce tableau?
Pour moi, c'est le Red Star. Le Red Star, ils ont pas forcément bien commencé la saison. Ça a eu du mal à se mettre en place. Mais au bout de 7-8 journées, c'est devenu une vraie machine de guerre. C'est l'une des équipes qui a le plus embêté Concarneau sur cette première partie de saison avec Martigues. Mais Martigues, c'est à l'extérieur. Le Red Star, c'était à domicile à Guy Puriot. Et franchement, ce match-là, s'il le rejoue, je pense, 9-10 fois. 10 fois, ils le perdent 9 fois, Concarneau. Physiquement, ils ont des joueurs comme Cheikh Ndoye qui a connu la Ligue 1, Anouar Kadiou qui arrive à maturité. Ils ont un Ludovic Butel dans les buts. C'est vraiment un mix entre talent et expérience, et beaucoup de joueurs qui ont aujourd'hui le bagage pour jouer en Ligue 2. Et Abby Bay, ce qu'a mis en place Abby Bay est complètement conforme à ce que attend le ce qu'on attend en championnat national. Et pour moi, c'est le plus gros rival de Concarneau cette saison. Mais on va voir, Versailles a changé de coach il y a très peu, Chris est arrivé sur le banc. Marquis, c'est un promu, donc on sait pas, il y a toujours l'incertitude autour des promus avec des joueurs qui n'ont pas connu le national. Est-ce qu'ils vont réussir à aller au bout? Pour moi, ça va tourner autour de ces équipes-là. Les autres, ça risque d'être peut-être un peu plus compliqué. Je pense que c'est un peu en dessous de ces quatre équipes-là.
Et alors, nous sommes dans les fêtes de Noël, en pleine trêve. Donc souvent, on est à mi-chemin hein, de la saison. Mais il reste encore un match pour terminer la phase aller. Un déplacement à Bourg-en-Bresse-Perona le 16 janvier. Ce serait déjà une première petite récompense d'aller chercher ce titre de champion d'automne ?
Oui, tout à fait. Mais ils peuvent même aller le chercher avant parce qu'il y a une histoire de points perdus sur tapis vert en début de saison pour avoir fait un joueur suspendu comme Le Beau contre Orléans. Et ils sont en instance, ça doit passer devant le COMEX de la Fédération Française de Football avant le 5 janvier, donc avant le match contre Bourg-Perona. Donc ils peuvent être potentiellement champions d'automne avant ce match-là. Mais effectivement, je ne sais pas s'ils prendraient ça comme une récompense, il ne faut pas prendre ça comme un acquis, parce que le véritable objectif, c'est d'abord le maintien, ils en parlent tout le temps, et c'est l'objectif affiché. Et le deuxième, c'est derrière d'aller chercher, pourquoi pas plus haut, la Ligue 2.
Et pour parler justement de cette suspension de points, il y avait eu un point en moins, le match nul contre Orléans, qui du coup s'était transformé en défaite, plus un point de pénalité, hein, c'est ça ?
Tout à fait, ce qui ferait qu'aujourd'hui ils ont actuellement un point d'avance sur Versailles, mais ils en auraient deux de plus, donc trois. Et comme c'est le goal average particulier qui compte en national, et qu'ils ont battu 4-1 Versailles au match aller,
forcément,
ils peuvent pas être rattrapés pour le titre de champion d'automne.
Eh ben, ce serait une excellente nouvelle pour les Lettonie. On va suivre évidemment tout cela de très près. Merci beaucoup, Dylan Lemay, journaliste à Ouest France, d'avoir été avec nous ce soir sur Radio Bonheur.
De rien. Bonne soirée.
Merci. Bonsoir,
Dylan. Merci.
Merci d'écouter Radio Bonheur. Chaque semaine, Radio Bonheur est écouté par plus de 225 000 personnes en Bretagne. Sondage Médiamétrie Média Local en habitude d'écoute, 225 600 personnes, auditoire semaine, Radio Bonheur en Bretagne, septembre 2020 à juin 2022, du lundi au vendredi, 13 ans et plus. Merci aussi à tous ceux qui nous écoutent en dehors de la Bretagne et dont Médiamétrie n'a pas comptabilisé l'audience en dehors de la Bretagne.
Merci d'écouter Radio Bonheur. 19h30, c'est le magazine des déchaînés du football. On a parlé du Finistère, on a parlé de Brest, hein, et à l'instant de l'US Concarneau. On parle maintenant du stade Pontivien. Alors nous allons donc dans le Morbihan,
stade Pontivien, puis FC Lorient pour la page morbihanaise, et on finira par les Côtes d'Armor avec le stade Briochin, avant de basculer bien sûr sur Guingamp, puisque Guingamp joue ce soir à 21h. Alors une petite minute quand même pour faire un point sur les scores actuels en Ligue 2, puisqu'à 17h Annecy affrontait Saint-Etienne, victoire des Annéciens 2-1, et Saint-Etienne qui reste toujours dernier de ce championnat de Ligue 2. Et en ce moment, ça a démarré il y a 26 minutes. Le Havre, le leader, mène face à son dauphin, face à Bordeaux, un but à 0. Ça, c'est dans un match, bien sûr, du haut de tableau. Le Havre, qui, en cas de victoire, prendrait 7 longueurs d'avance sur les Girondins. C'est évidemment en cours et à suivre au cours de cette soirée. On va maintenant se diriger vers, on le disait, le Morbihan et le Stade Pontivien, club de Régional 1, mais alors pour le championnat, mais aussi pour la Coupe de France, parce qu'ils sont toujours en lice, les Pontiviens, et ils vont affronter les Herbiers au prochain tour. Les Herbiers, vous vous souvenez de ce club qui a battu Guingamp au 8e tour de la Coupe de France? Et bien les Herbiers, au prochain tour, ils iront jouer le Stade Pontivien en 32e de finale de cette Coupe de France. Et pour parler de l'actualité générale du stade, et bien on a avec nous le président Steven Le Plénier. Bonsoir Steven.
Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Alors on le disait, il y a l'actualité en championnat, l'actualité en coupe, parce que ça arrive aussi très vite. Déjà un petit mot sur ce parcours en Coupe de France. Est-ce que les 32e de finale, quand vous avez débuté la saison, c'était un cap inespéré? Comment vous voyez un petit peu ce parcours réalisé?
Un cap inespéré, je dirais pas ça. On y a goûté il y a 4 ans, quand on avait affronté l'an avant Guingamp à ce même stade, en 32e. Maintenant, le tirage a été, on va dire, favorable, avec dans l'ordre des 2, des 1, encore une D1, la régionale, régionale 3, régionale 2. Et puis on est monté petit à petit au fur et à mesure des tours. Le tirage au sort nous réservait jusqu'à un exploit à Alençon. De toute façon, il y a toujours un adage qui dit que pour atteindre les 32e, il faut faire un exploit. L'exploit a eu lieu à Alençon, qui évolue en National 3. Et puis bon, tu réussis à se qualifier au bout du bout. Et c'est un exploit extraordinaire.
Ouais. Ouais, ouais, un bel exploit d'aller gagner là-bas, surtout qu'Alençon avait battu aussi Le Havre, hein, club de Ligue 2, leader de Ligue 2 au tour précédent. Où va se jouer le match ? Est-ce que vous allez pouvoir accueillir cette rencontre au Faubourg de Verdun à Pontivy ?
Oui, bien sûr, tout à fait. Ouais. Ouais, jusqu'à Ligue 2, on pouvait recevoir.
Ah oui, ouais, donc dans ce cas, vous serez dans vos murs, dans votre stade. Vous le disiez, il y a quelques saisons, 2018-2019, vous aviez affronté Guingamp, qui était en Ligue 1 à l'époque. Guingamp l'avait emporté 4-2, mais qu'est-ce que vous avez appris justement de ce parcours-là pour aller peut-être un peu plus loin cette année ?
En fait, il y avait eu Guingamp, il y avait eu un exploit aussi pour se qualifier en 32e contre Avranches. On avait gagné 1-0 à domicile, qui évoluait en National 1 à l'époque et nous en National 3. Mais l'année d'après, en fait, on a reçu le FC Lorient également, qui était premier Ligue 2, au 8e tour. Donc à prendre, on a encore quelques joueurs, en fait, quelques joueurs encore de ce parcours-là, de ces différents parcours, Guingamp, Lorient, Gaël Ledoirin, Julien Rivalin, Tony D'Acosta, Mickaël Le Guével, qui peuvent enseigner justement aux plus jeunes comment essayer d'accéder à se qualifier en 32e. On a aussi Fabrice Perrault qui est entraîneur adjoint, qui a connu beaucoup de 32e de finale également entre Saint-Colomini et la GSI Pontivy. Donc voilà, l'expérience est là. Maintenant, après, ça va jouer sur 90 minutes. On verra ce que ça peut donner, mais en tout cas, c'est très excitant. Ouais.
Et est-ce qu'on commence déjà à en parler, que ce soit au niveau du club, dans la ville? C'est dans une dizaine de jours hein, maintenant ce match. Est-ce qu'on en parle déjà ici et là du côté de Pontivy?
Alors pour l'instant, on va dire que c'est des discussions entre deux, mais le fait d'avoir entamé la vente des billets au niveau du kiosque de la Plaine à Pontivy, ça commence à créer une émulsion un petit peu. Ça va démarrer vraiment à partir du week-end prochain et enclencher vraiment à partir de lundi, en fait, surtout avec la presse qui va relayer l'événement et à travers différentes interviews de bénévoles ou de joueurs actuels, quoi, et d'anciens joueurs également.
Ouais, pour un petit peu faire monter la mayonnaise aussi en vue de ce 32e face aux Herbiers. Alors le petit contre-coup de tout cela, c'est peut-être en championnat que c'est un petit peu plus difficile en ce moment, le stade pontivien qui est en milieu de tableau de Régional 1.
Ouais, clairement, on est en dessous de nos ambitions. Nos ambitions, c'était d'être d'entrée peut-être au mois de décembre. On n'y sera pas. Maintenant, on n'est même pas à la moitié du championnat. Il reste deux matchs contre le Sept Lorient et le VOC B. Voilà. Est-ce qu'il y a un contre-coup de la Coupe de France? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est une vérité ou pas. Il y a 4 ans qu'on avait fait le parcours en 32e pour affronter Guingamp. Ce parcours nous avait maintenu en championnat, en fait. Et nous a permis, à l'issue de la saison, de se sauver en National 3 alors qu'on n'a pas marqué un but pendant 5 mois. Voilà, donc faut espérer que tout ne se relâche pas non plus. Si on a le malheur d'être battu contre les Herbiers ou d'être éliminé contre les Herbiers, il faut l'objectif, c'est vrai, le pain quotidien, c'est le championnat. Et si la Coupe de France peut aider justement à maintenir cette étincelle, et on va maintenir cette chance-là, ouais.
Et la montée, la remontée hein, immédiate en N3, ça reste l'objectif quand même dans cette saison aussi, ou un des objectifs?
Aujourd'hui, c'est une ambition. Maintenant, tout de suite, c'est peut-être un peu prématuré. On voit aujourd'hui nos trois compagnons qui sont descendus avec nous de National 3 en Régional 1. Aujourd'hui, sont relégables dans leur championnat, que ce soit Tréguin, Plouzané ou bien Guitry-Messac. C'est très 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 compliqué de digérer une descente. Très très compliqué. Il y a une nouvelle dynamique à mettre en place. Aujourd'hui, moi, je suis plus à regarder ce que font notre B, notre équipe C. On est en Régional 2 et Régional 3, qui sont dernières en classement. Donc voilà, c'est là-dessus que ça m'inquiète un petit peu plus et qu'on va essayer de tout faire pour trouver des solutions, quoi.
Eh bien, c'est ce qu'on souhaite, hein, évidemment, au stade pontivien. On souhaite aussi un très beau 32e de finale hein, face aux Herbiers qui, comme le Havre, hein, a battu une équipe de Ligue 2 au tour précédent. Peut-être que ça va vous porter chance, ça aussi.
Ah oui, non, mais tout à fait. Mais aujourd'hui, j'entendais ici et là que c'était pas un bon tirage parce que certains auraient préféré qu'on joue le stade Rennais ou le FC Nantes. Moi, aujourd'hui, qui est en 32e, on reçoit, on a déjà ce bonheur de recevoir. Oui. Donc sur un adversaire qui est accessible, on va dire. Alors attention, c'est pas une mince affaire, hein. C'est quand même un club très très costaud de National 2 et puis qui connaît très bien la coupe, qui l'aime cette coupe. Ils ont été en finale il n'y a pas si longtemps que ça. Maintenant, on va essayer de faire un maximum de monde aussi pour que les gars puissent être le mieux possible encouragés. C'est juste dommage de jouer le dimanche à 18h. Mais voilà, on n'a pas le choix. Il y a des choses qui se passent au-dessus de nous.
Il y a des contraintes, effectivement. Il y a beaucoup de clubs qui voulaient jouer plutôt le samedi soir. Je pense à Lannion qui voulait recevoir Toulouse plutôt le samedi. Bon, ça aura lieu aussi le dimanche à 18h, en effet. Lannion-Toulouse, autre match de Coupe de France. Merci beaucoup, Steven Le Plénier, d'avoir répondu à nos questions ce soir.
C'est moi. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous.
Merci également.
Bonsoir. Au
fidèles, chaque jour, pour la musique, l'info, la proximité. Tout cela n'est pas prêt de changer. En revanche, ce qui change, c'est la technologie pour nous écouter. Désormais, nous vous retrouvons aussi en DAB+. Le DAB+, c'est la radio qui fait sa révolution numérique avec une qualité optimale et des services nouveaux. Alors n'attendez plus, un poste DAB+, en voilà une belle idée de cadeau. J'aime ma radio en FM. Je vais adorer l'écouter en DAB+.
Vous pouvez déjà écouter Radio Bonheur sur votre récepteur DAB à Nantes, Pornic, Saint-Nazaire, La Roche-sur-Yon, Angoulême, La Rochelle, Saintes, Poitiers, Niort, Châtellerault, Rouen et Paris-Île-de-France. Les déchaînés du football, 19h39, c'est la reprise. On reste dans le Morbihan après Pontivy, place au football club de Lorient, place à la Ligue 1.
Oui, les Merlus qui étaient aussi en trêve, qui vont reprendre le championnat comme Brest cette semaine. Alors ce sera un jour plus tard, jeudi à 17h, la réception de Montpellier au Moustoir pour la troupe de Régis Lebris, un cinquième pour l'instant de ce championnat de Ligue 1 avec une première partie de saison qui n'est pas tout à fait terminée, mais 15 premiers matchs assez exceptionnels, 28 points au compteur pour les Merlus et
un petit coup de frein quand même hein.
Ouais, un petit coup de frein à la fin parce qu'il y a eu cinq matchs sans victoire en fait, trois matchs nuls et deux défaites face à Nice et face au PSG et match nul contre Strasbourg, notamment le dernier match avant la trêve concédé dans les derniers instants. Il y avait la possibilité d'accrocher cette moyenne de 2 points par match en gagnant à Strasbourg. Ils sont un tout petit cran en dessous, 1,9 les Lorientais de Régis Lebris. Et pour parler de l'actualité général du FCL, on a avec nous ce soir journaliste à Ouest France, Arnaud Huchette. Bonsoir Arnaud.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Alors il y a évidemment le côté sportif avec la reprise du championnat qui arrive, mais il y a aussi des projets à Lorient, en tout cas des idées qui ont émergé ces derniers jours avec pourquoi pas l'arrivée peut-être d'un investisseur américain au sein du FC Lorient, du Texas, hein, c'est ça Arnaud?
Oui, on a eu cette info-là la semaine dernière. Alors d'emblée, je précise que rien n'est fait. Hein. C'est en discussion, donc ça peut aboutir, mais c'est pas sûr que ça aboutisse non plus. Voilà, les discussions sont en cours et pour que donc ce monsieur qui s'appelle Bill Follet, qui est un millionnaire texan de 77 ans, qui est propriétaire d'un club de hockey sur glace aux États-Unis, qui a racheté Bournemouth, 14e de première ligue, il y a quelques temps, deviennent actionnaires minoritaires du FC Lorient.
L'avantage finalement pour Lorient dans cette idée-là, c'est que l'actionnaire reste minoritaire aussi, de ne pas céder toutes ses parts ou la majorité justement.
Oui, bah c'est augmenter les fonds du club. Donc là, le chiffre qu'on a eu a confirmé tout ça évidemment, mais c'était d'une hauteur de 30%. Donc 30% en plus, hein, c'est un apport dans le capital. Donc ça se chiffre sans doute en quelques dizaines de millions d'euros, peut-être 20, autour de 20 par exemple, 20 millions d'euros. Encore une fois, ce sont des estimations.
Mais ce serait donc oui pour augmenter le capital du club, et puis le Bifollet serait actionnaire minoritaire. Ça ne changerait absolument rien à la gouvernance actuelle. Le club continuerait de fonctionner dans sa forme actuelle.
Oui, avec Loïc Ferry, hein, la présidence bien sûr du FC Lorient. Ce serait quand même assez différent de ce qu'on peut voir dans les autres clubs, par exemple à Lyon ou autre, où on voit souvent des actionnaires qui, eux, prennent la majorité des parts finalement. Là, Lorient aurait une certaine sécurité dans ce fonctionnement-là.
Bah, c'est ce qu'on appelle la multipropriété, hein, qui est très en vogue depuis une dizaine d'années, notamment avec ces propriétaires américains qui veulent investir dans le sport européen, dans le football. L'idée là, c'est que Bournemouth soit le club phare, on va dire, de ce projet, et qu'il y ait des clubs, je sais pas comment on peut les appeler, peut-être satellites, dont le FC Lorient, pour que l'avantage pour les propriétaires, en tout cas, c'est que ben, pour la valorisation des joueurs, ça permet de faire monter des joueurs ou de faire redescendre des joueurs. Je prends un exemple très concret, hein, mais si Enzo Lefebvre et Terrell Moffi veulent aller voir au-dessus, ça peut être dans l'équipe de Bournemouth. Et puis peut-être un joueur qui est un peu plus en difficulté à Bournemouth va venir faire ses gammes au FC Lorient. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on l'envisage. Alors encore une fois, il n'y a pas eu de communication officielle, nous c'est les infos qu'on a eues. Il faudra demander toutes ces explications aux dirigeants peut-être assez rapidement à la reprise de la Ligue 1.
Ouais, la Ligue 1 justement, hein, qui reprend pour Lorient jeudi, réception de Montpellier. Mine de rien, quand on regarde maintenant avec un peu de recul dans le rétroviseur, c'est une première ou 15 premiers matchs assez exceptionnels que nous ont offert les Merlus. 28 points en 15 journées, la 5e place, même s'il y a eu un petit coup d'arrêt sur la fin, ça reste quand même assez incroyable.
Oui, c'est vrai que ça paraît loin, parce qu'il y a eu la Coupe du Monde, l'événement international entre-temps, et là on reprend avec la Ligue 1, et c'est vrai qu'il faut pas oublier ce parcours remarquable, surprenant au début, et puis à force de bien jouer, ben le FC Lorient prend des points, et domine ses adversaires, et se trouve très très logiquement à cette 5e place du classement, même s'il y a eu effectivement un coup de mou. Demain, on aura un article avec les préparateurs physiques du club, hein, qui nous explique comment ça s'est passé pendant cette trêve, et puis qu'est-ce qu'ils ont fait et à quoi s'attendre désormais pour les matchs à venir. Il nous disait que la trêve était arrivée au bon moment, hein, pour le FC Lorient, qui n'a pas un effectif extensible, qu'un effectif assez jeune. Donc ça commençait un peu à tirer la langue, et cette trêve est arrivée au bon moment. Gageons que les Lorientais ont bien rechargé leur batterie pour attaquer comme ils l'avaient fait au mois d'août en Ligue 1. Quoi.
Ouais, c'est ça, avec notamment le retour aussi, hein, de Laurent Abergel, qui s'était blessé contre Brest lors du derby, qui va pouvoir reprendre bien sûr avec les Merlus. La question que beaucoup de gens se posent, c'est est-ce que ça peut durer du côté de Lorient après 15 matchs? Est-ce qu'on peut assez logiquement estimer que oui, finalement?
Il n'y a pas de raison. Si l'équipe continue sur les mêmes bases que ce qu'elle a proposé en première partie de saison, il n'y a pas de raison. Le seul frein qui lui pourrait peut-être poindre, c'est que les adversaires attendent un peu plus Lorient désormais. Ils savent comment Lorient joue. Ils savent que c'est une équipe qui est redoutable dans les transitions. Ils savent que bah, qu'il y a un maître à jouer, c'est Enzo Lefebvre, et que je pense que ce garçon va être très très surveillé en deuxième partie de saison. Donc Lorient n'est plus une surprise. Donc passer l'effet de surprise, c'est la grande question, savoir si les Merlus vont pouvoir continuer d'engranger autant de points, sachant que leurs adversaires ont ciblé désormais leurs forces. Ça, c'est une des questions. Et puis l'autre question, c'est les Merlus eux-mêmes. Voilà, est-ce qu'ils vont savoir garder la tête froide, savoir garder leur fond de jeu, leur forme individuelle et collective. Voilà, c'est moi, je suis plutôt confiant, je suis plutôt optimiste. Je pense que Régis Lebris a souvent un coup d'avance dans ce qu'il prévoit, et je vois pas de raison de raison que ça s'arrête, d'autant que comme vous le soulignez, Gaëtan, le retour de Laurent Abergel est fondamental, puisqu'on a bien vu que, hasard ou coïncidence, hein, mais quand il a été blessé, Lorient s'est un peu écroulé, en termes comptables en tout cas. C'est vraiment un élément fondamental de l'effectif lorientais. C'est une excellente nouvelle qui revienne dans le 11.
Ouais, ouais, tout à fait, le capitaine des Merlus. Alors, pour que ça perdure aussi de Lorient, ça nécessite de garder ses propres joueurs, Enzo Lefebvre, Ouattara. On pense aussi à Mofi, hein, qui a rayonné avec 10 buts déjà depuis le début de la saison. Il n'y a pas de crainte là, d'avoir de départ concernant ces joueurs-là, principalement?
Bah, le président du FC Lorient dit souvent qu'il y a des offres qui ne sont pas refusables. Donc évidemment, si Liverpool arrive avec 45 millions d'euros pour Terem Mofi, enfin, je force le trait, hein, mais évidemment que les dirigeants lorientais vont réfléchir à deux fois. Donc je pense qu'ils sont ils ont dans l'idée de garder leur meilleur joueur, évidemment, pour peut-être obtenir quelque chose d'historique à la fin de la saison. Encore une fois, il y a une réalité de marché et si des gros clubs ont des besoins à des postes et ont ciblé des joueurs du FC Lorient, tout sera discuté, évidemment. Mais je pense que certains joueurs lorientais vont animer le mercato, effectivement. Ou en tout cas seront ciblés.
Ouais, seront ciblés, effectivement, comme ces joueurs qu'on a pu citer, évidemment, qui ont rayonné sur les 15 premiers matchs de cette saison. La suite, c'est dès jeudi avec la réception de Montpellier et puis dimanche, le déplacement à Angers. Face à deux équipes qui ne sont pas forcément en grande forme, hein, sur ce début d'exercice, c'est l'occasion de repartir pied au plancher, là.
Ouais, tout à fait. Tout à fait. Je ne sais pas si c'est bien de jouer les moins gros ou de jouer les gros à ce moment-là. Peut-être, je pense que vu qu'il y a eu la Coupe du Monde et qu'il y avait beaucoup d'internationaux dans certains clubs, je me demande si c'était pas la bonne période pour jouer ces clubs-là. Là, Lorient va jouer des clubs de clubs moyens, on va dire, donc, qui est en grande difficulté. Et effectivement, lui qui a eu deux internationaux qui ont été en demi-finale de la Coupe du Monde. Donc, c'est peut-être le bon moment pour jouer Angers. Montpellier, j'ai moins de pressentiments, mais en tout cas Angers, vu la saison qu'ils font et les difficultés qu'ils ont, et que ça soit sportive ou extra sportive, je pense que voilà, faut leur un match à gagner et leur mettre un coup sur la tête définitivement, quoi. Montpellier, je suis un peu plus dubitatif sur le duel, mais les Merlus, encore une fois, n'ont pas, s'ils sont bien préparés physiquement, ils vont avoir à cœur de retrouver la victoire qui leur échappe depuis 5 matchs. Donc c'est un calendrier plutôt abordable.
Ouais, exactement, pour les Merlus qui derrière se projetteront sur la Coupe de France. Merci beaucoup Arnaud Huchette d'avoir été avec nous ce soir sur Radio Bonheur.
Merci Gaëtan.
Merci, à bientôt.
Au revoir.
Radio Bonheur, 19h49, la réclame. On se retrouve dans 45 secondes.
Aldi. Dans la vie, on n'a pas tous une meilleure copine qui nous dit...
Elles sont bien fraîches.
Car les huîtres fines de Claire Marraine d'Oléron IGP sont dès maintenant chez Aldi à 6,50€ le kilo. Oui, ce « elles sont bien fraîches » qui vous permettrait d'enfin oser en goûter et même de les aimer. Mais puisque maintenant on vous l'a dit, vous pouvez y aller vous aussi.
Aldi, place aux nouveaux consommateurs.
12,99€ la bourriche de 2 kg, calibre 3, élevée en France, 24 pièces minimum, offre valable jusqu'à épuisement des stocks, info sur aldi.fr.
Jiffy des étés de génie.
Hé, hey, Jérôme Anthony, vous faites quoi?
Je suis chez Jiffy et j'achète. J'achète tout le blanc à moins 50%. J'achète les coussins à moins 50%, les couettes à moins 50%, les plaids à moins 50%, les rideaux à moins 50%, les parures de lit à moins 50%. Ah, j'achète! Et ça va me faire un super bon d'achat.
Remise en bon d'achat pour les clients VIP, conditions et durée de l'offre sur jiffy.fr.
Les déchaînés du football, c'est la reprise aujourd'hui du magazine et des déchaînés du football, puisque pour ceux qui se trouvent dans les Côtes d'Armor, il y aura le match avec Guingamp qui se déplace à Nîmes tout à l'heure. 19h51, les Côtes d'Armor avec aussi Saint-Brieuc, club de national, hein, club de 3e division. Saint-Brieuc, alors Saint-Brieuc a très mal démarré son championnat, mais Saint-Brieuc, depuis un mois un peu plus, relève la tête.
Eh oui.
On voit cette équipe briochine capable de gagner et d'accrocher des adversaires.
Oui, pour la première fois de la saison, les Briochins ont aligné une série de 3 matchs sans défaite, 2 matchs nuls contre Châteauroux et Le Mans, et une victoire, la première d'ailleurs de la saison à domicile, il y a un peu plus d'une semaine face à Villefranche, 1-0 avec un but de l'une des recrues, arrivé en cours de saison, Hicham Benkaïd.
Ça va être un championnat compliqué quand même pour Saint-Brieuc, parce qu'il y a beaucoup de clubs à descendre cette
saison. 6 descentes cette année sur les 18,
un tiers.
Qui forment ce championnat, un tiers c'est beaucoup. Saint-Brieuc est actuellement avant-dernier, 13 points à 6 longueurs du premier relégable. ça reste encore
faisable.
Jouable, hein,
ça reste faisable.
Pour ouais. Saint-Brieuc, mais c'est vrai que ouais, dans ce championnat à 6 descentes, ça laisse pas beaucoup de marge, évidemment, pour sauver sa peau et pour parler bien, de l'actualité, de la série, un petit peu du moment aussi de Saint-Brieuc. On a avec nous l'un des milieux de terrain, alors qu'on va même peut-être parler de défenseur bientôt, Julien Benahim. Bonsoir, Julien.
Salut, bonsoir à tous.
Bonsoir.
Alors Julien, ça va un peu mieux. On sait que c'est les vacances là actuellement pour le Stade Briochin. Je crois que vous reprenez jeudi l'entraînement. Les vacances et les vacances avec l'esprit peut-être un peu plus léger avec cette première victoire aussi à domicile acquise contre Villefranche.
Ouais, c'est ce qu'on s'était dit. On voulait bien finir. J'avais déjà fait l'interview l'année dernière et j'en avais fait une avant ce match. C'était le même match. Et j'avais dit que c'était important de gagner avant de partir en vacances pour avoir l'esprit un peu plus tranquille et être encore plus robuste à la reprise.
Qu'est-ce qui vous a permis là, ces dernières semaines de relever un petit peu la tête, d'enchaîner notamment trois matchs sans défaite?
Je pense qu'avec l'arrivée du nouveau coach, il y a un nouveau travail qui s'est mis en place et on voit qu'au fil des matchs, petit à petit, ça prend forme. Donc on se sent tous plus à l'aise et ça se remarque vite, quoi.
Les principes ont totalement changé par rapport à ce que vous aviez pu connaître sous Didier Santini?
Oui, c'est logique, c'est un nouvel entraîneur, donc il a une nouvelle philosophie de jeu. Donc à partir de là, il nous a fallu un temps d'adaptation et puis maintenant on est mieux.
Ouais, on est mieux avec cette victoire, hein, vous le disiez, Julien, une victoire 1-0 contre Villefranche, qui est l'un des concurrents aussi hein, au maintien dans ce championnat. Karim Okedem parlait de 9 victoires dans cette saison pour aller se sauver, enfin de 9 victoires encore sur les 18 matchs qu'il reste à jouer. Ça veut dire une victoire sur tous les deux matchs. Est-ce que c'est jouable vraiment pour vous?
Oui, c'est jouable. Après, moi, je suis pas quelqu'un qui regarde beaucoup les chiffres. Moi je suis là pour enchaîner les matchs semaine après semaine et gagner tout le temps. Je me dis pas ce week-end je vais pas essayer de perdre. Donc moi je vais tous les matchs pour les gagner. Mais après c'est toujours faisable. On l'a vu l'année dernière, on était en mauvaise posture et pareil, on a réussi à bien remonter en classement. C'est possible.
Vous parliez il y a un instant, Julien, de la philosophie mise en place par le nouvel entraîneur Karim Mokedem. Philosophie qui se base aussi depuis quelques matchs, 2 matchs et demi, 3 matchs, sur une défense à 3, un 3-5-2. Et vous avez du coup décalé aussi sur le terrain votre position. De milieu de terrain, vous êtes passé à piston gauche finalement. Comment vous vous sentez dans cette nouvelle position?
C'est un poste que je découvre. J'avais déjà quelques bases à ce poste-là quand j'étais plus jeune, mais c'est un poste vraiment que je découvre et je me sens plutôt à l'aise. Même au niveau du cardio, ça va. Donc je découvre petit à petit, je prends confiance de match en match et c'est un poste que j'apprécie énormément.
Et d'une manière générale, vous sentez l'équipe aussi plus à l'aise, peut-être avec plus de repères dans ce schéma-là?
Oui, je la sens, il y a plus de repères, il y a même plus de repères défensivement, on dira, étant donné qu'on rajoute un joueur, on passe à 5 défenseurs quand on défend, donc il y a un peu plus de joueurs sur les côtés, mais notamment quand il y a beaucoup de joueurs qui dédoublent des équipes adverses, c'est plus des 2 contre 1, on bascule sur les 2 contre 2, donc, et même offensivement sur les côtés, on fait du surnombre, donc c'est plus intéressant.
Est-ce que vous, Julien, dans votre carrière, vous avez déjà connu une situation un petit peu comme ça où le classement à mi-saison était difficile, la situation était délicate et à l'arrivée, où vous avez peut-être connu une belle issue?
Bah, déjà l'année dernière.
Oui, c'est vrai.
Comme j'ai dit tout à l'heure, on était en mauvaise posture et ça s'est très 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 bien terminé. Mais dans le cas adverse, non. J'ai déjà connu une descente, mais voilà, j'étais en bonne posture et j'ai fini en mauvaise posture. Donc ouais. Si on peut faire comme l'année dernière, c'est parfait.
La descente, c'était avec Béziers peut-être?
Non, avec Marignane.
Marignane, ah oui, Marignane Gignac en 2018-2019, dans ce championnat aussi d'ailleurs de National. Le dernier match de la phase aller, ce sera à Sedan. Sedan, c'est peut-être justement un exemple à suivre, hein. Sedan qui avait mal démarré et qui là est globalement sur une nettement meilleure forme avec 3 victoires sur les 4 derniers matchs, maintenant en milieu de tableau. C'est un peu l'exemple à suivre peut-être aussi pour le Stade Briochin.
Ouais, moi je pense pas qu'il y ait un exemple à suivre, c'est notre travail, c'est notre patte à nous, c'est les idées du coach, il faut qu'on continue dans notre travail. Après, c'est un bon exemple, oui, en termes de résultats, mais voilà, c'est à nous de continuer dans notre bonne perspective, de continuer à enchaîner les matchs et surtout de les gagner.
Oui, de les gagner pour aller le plus haut possible et sortir de cette zone rouge de la reprise, de nationale.
C'est bientôt la reprise.
Oui, alors les entraînements, ça reprend jeudi, hein, Julien, c'est ça?
Ouais.
Et le prochain match, ce sera le 13 janvier. Donc il y a un petit peu de temps encore, mais 13 janvier, déplacement à Sedan, chez les Sangliers soudanais, pour clore la phase aller, le 17e match de cette saison. Et puis derrière, la phase retour débutera avec la réception d'un relégable, hein, le Paris 13 Atlético, qui viendra à Fred Aubert pour entamer cette phase retour de National. Merci beaucoup, Julien Benahim, d'avoir été avec nous ce soir.
Merci à vous.
Merci, merci. Bonsoir.
Bonsoir. Merci, bonsoir. Et allez, le stade Bréhochin, hein, le stade Bréhochin qu'on aimerait bien voir quand même se maintenir la saison prochaine en National, parce que ça va être très compliqué dans les prochaines saisons de revenir dans ce championnat de National. Et il va falloir terminer premier la saison prochaine, comme pour tous les clubs. C'est compliqué, hein, de revenir en National. C'est
déjà
plus facile
le cas, hein, de voir finir premier, mais là où ça va changer, c'est qu'il n'y aura plus que 3 groupes de National 2 au lieu de 4 actuellement. Mmh, mmh. Ça va encore redistribuer les cartes.
Ce sera encore plus difficile d'être premier du coup.
Ouais, c'est ça. Ouais. Et en sachant que même s'il y a maintien cette année, l'année prochaine, il y aura encore 6 descentes, puisqu'il y aura à nouveau 4 relégués de Ligue 2, donc 2 années de rang. Ouais. Ça complique évidemment les choses, hein, pour des clubs comme
Saint-Brieuc
ou autres, même des gros clubs, hein, Châteauroux qui est relégable actuellement. On y croit bien sûr pour les Griffons.
Radio Bonheur, il est presque 20h. Les déchaînés du football, ce soir en direct jusqu'à 20h30 pour le magazine des déchaînés du football. Et puis on enchaînera ensuite avec le match de Guingamp qui se déplace à Nîmes à partir de 20h30 sur nos émetteurs costarmoricains ou sur le site internet de Radio Bonheur pour ceux qui ne sont pas dans les Côtes d'Armor.
Bonsoir à toutes et à tous. Ils rangent de nouveau leurs blouses au placard malgré l'appel des autorités à l'Union Sacrée pour soulager les hôpitaux débordés par la triple épidémie Covid, bronchiolite et grippe. Les médecins libéraux sont de nouveau appelés à fermer leur cabinet une semaine à partir d'aujourd'hui pour réclamer une amélioration de leurs conditions d'exercice. Soutenu par certains syndicats, le collectif Médecins pour Demain, à l'origine de ce mouvement, a réussi un premier coup d'éclat les 1er et 2 décembre. Son mot d'ordre de fermeture des cabinets médicaux a par exemple entraîné une baisse d'activité d'environ 30% chez les généralistes, selon l'assurance maladie. La principale revendication du collectif est un doublement du tarif de consultation de base qui passerait de 25 à 50 euros. La marche blanche en mémoire des 3 victimes de l'attaque raciste de vendredi dernier s'est déroulée dans le calme à Paris. Le cortège a défilé entre les lieux de cette tuerie et la rue de Lafayette dans le 10e arrondissement où 3 militantes kurdes avaient été assassinées en janvier 2013. La garde à vue du principal suspect de la tuerie a pris fin ce matin. L'intéressé va être présenté à un juge d'instruction en vue de sa mise en examen. Une information judiciaire est ouverte pour assassinat et tentative d'assassinat en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion, ainsi que pour acquisition et détention non autorisée d'armes, a ajouté le parquet, qui précise avoir requis le placement en détention provisoire du suspect. La romancière à succès Françoise Bourdin, une des plus lues en France avec plus de 15 millions d'ouvrages vendus, est décédée hier à l'âge de 70 ans. Ignorée du monde littéraire, Françoise Bourdin est l'auteur de près de 50 livres qui ont rencontré un immense succès depuis 72. Arrivée en 94 chez Bellefonds, Françoise Bourdin publie 2 titres en moyenne par an, chacun se vendant en moyenne à 300 000 exemplaires. Enfin, 26 degrés à Verdun dans l'Ariège, 24 degrés dans les Hautes-Pyrénées, 23 dans les Pyrénées orientales. L'année 2022 vient encore de battre un record de température. Ce Noël a été particulièrement doux, bien au-dessus des normales de saison et au deuxième rang des plus chauds jamais enregistrés selon Météo France.
Voici la première compilation de Silver Burlot.
Mon Dieu que j'en suis à mon aise, comme ami est auprès de moi. Amis danseurs, je vous emmène là où tout est beau. Plage jolie fille en bikini sur le sable chaud.
Combien pour ce chien dans la vitrine? Ce joli petit chien chaud et blanc.
Les pouces en avant, les pouces en avant, les coudes en arrière, les coudes en arrière.
Mon cœur est en automne. Mon aimé.
amis, c'est la solitude. Avec elle, je me sens moins seul.
Ohé, 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 venons cap à l'ouest. Ohé, 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 adhère à la santé.
La compilation de Silver Burlot contient 281 titres, soit plus de 15 heures de musique. Vous pouvez obtenir la première compilation de Silver Burlot sur une clé USB pour 49 euros, frais de port offerts. Pour commander, rendez-vous à la boutique Radio Bonheur ou en téléphonant au 02 96 63 00 63. Merci d'écouter Radio Bonheur, c'est le magazine des déchaînés du football en direct ce soir jusqu'à 20h30. Je vous rappelle qu'à 20h30, ce sera la reprise du championnat de Ligue 2 avec l'En Avant Guingamp qui se déplace à Nîmes, un match en direct sur Radio Bonheur à retrouver sur nos émetteurs FM costarmoricains et donc sur le site internet de Radio Bonheur. 20h02, avant de parler de l'En Avant de Guingamp, on parle des championnats de National, N1, N2, N3 et oui, de la Coupe de France.
Exactement, on l'a dit, en National, Saint-Brieuc est relégable, même si ça va un petit peu mieux. Concarneau est leader à la trêve de ce championnat en attendant la 17e journée et donc la fin de la phase aller. Et puis en National 2, National 3, ça a joué aussi en ces dernières semaines pendant la Coupe du Monde. Ça a continué de jouer. Et pour les clubs qui nous concernent, eh ben ça va plus ou moins bien en fonction des situations et des uns et des autres. Saint-Malo, par exemple, va beaucoup mieux parce que Saint-Malo est maintenant 3e de National 2 avec 20 points, mais beaucoup de retard hein, sur la tête du groupe, 13 points de retard exactement, mais du coup pas mal d'avance aussi sur le bas et sur la zone rouge de ce championnat de National 2 qui ne voit pas 6 descentes mais 5 dans ce championnat alors qu'il n'y a que 16 clubs, donc c'est quasiment pareil.
C'est pareil, c'est énorme
que pour le National,
quasiment un tiers encore.
Il y a un effet de cascade hein, du coup avec ces relégations assez nombreuses dans les différents championnats. Forcément ça se répercute un petit peu partout. Les Malouins, on l'a dit, 3e, ils ont 6 points d'avance sur la zone rouge. On retrouve un petit peu plus bas la réserve de Guingamp, 8e avec 16 points. Et la réserve, c'était l'actualité de la trêve qui a changé d'entraîneur puisque Jean-Baptiste Lebescon a été promu adjoint de Stéphane Dumont au sein de l'équipe professionnelle après le départ de Thibaut Giresse à Nîmes, que l'on va retrouver tout à l'heure lors du Nîmes-Guingamp. Et c'est donc Sébastien Bagnier, ancien directeur du centre de formation de Caen, notamment passé aussi par Ajaccio, Bordeaux. Eh bien, qui a été nommé entraîneur de la réserve de Guingamp jusqu'à la fin de la saison. Son premier match face au leader s'est soldé par une courte défaite, 1-0, mais les Guingampais sont dans le ventre mou de ce championnat. Un peu plus bas, en revanche, c'est très difficile pour Vannes cette saison, avant-dernier, avec 9 points, 5 de retard sur le premier non relégable. 4 défaites là avant la trêve pour les Vannetais de Pierre Talmont en difficulté dans ce championnat de N2, même s'ils sont toujours en course hein, en Coupe de France. On y viendra tout à l'heure, ils se déplaceront à Plabennec, les Vannetais. Dans l'autre groupe de National 2, celui où évolue la réserve de Lorient, eh bien les Merlus vont mieux. 2 victoires de rang avant les vacances, 4-0 contre Vierzon, 3-0 contre Andrézieux, et donc des Lorientais qui se sont replacés dans ce groupe, 5e place, 21 points et 7 longueurs d'avance maintenant sur la zone de relégation. Ça va mieux pour les hommes d'Arnaud Leland qui avait vécu un début d'exercice assez difficile mais qui ont relevé la pente. Du côté du National 3, eh bien ça n'a pas bougé depuis que l'on s'était quitté avant les vacances. Dinan Léon est toujours en tête de ce championnat, 29 points en 11 matchs, 9 victoires, 2 matchs nuls et 0 défaite. Toujours invaincu la troupe de Stéphane Lamont qui trust la première position du groupe breton. On retrouve Fougère avec 7 points de moins et un match de moins aussi en deuxième position, la Milizac Saint-Pierre en troisième place avec 20 points, la TRN Plabennec cinquième avec 16 points, juste devant la réserve de Saint-Brieuc. Et puis dans le bas de tableau, ou presque bas de tableau, parce que là aussi il y a beaucoup de relégations, donc quand on est dans le ventre mou on est presque relégable, 9ème place pour Lannion avec 15 points, Locminé ensuite dans la zone rouge avec 11 points comme Cesson-Sévigné, la réserve de Brest 7 points tout comme la Montagnarde et l'entente sansonnaise d'Auloise qui referme la marche avec 2 points. D'ailleurs il y aura un Montagnarde d'Aulle lors du prochain match de championnat et celui-là évidemment vaudra très cher, notamment pour un Zinzac, l'Ocrist. Ça c'est pour le ou les championnats. Et on le sait, il y a la Coupe de France aussi qui arrive bientôt. Et tout s'est un petit peu décidé pendant la trêve. Et il y aura, on en a parlé tout à l'heure, un stade pontivien, les Herbiers en 32e de finale. Il y aura aussi un Plabennec Vannes, match, un gros derby hein, évidemment, dans ce, en Bretagne, dans ce 32e de finale de Coupe de France. Il y aura aussi un Lannion-Toulouse. Et le match, ça a été officialisé il y a quelques jours, se jouera au stade de Roudourou, Lannion, club de N3 donc, hein, qui accueillera Toulouse, pensionnaire de Ligue 1. C'est la première fois dans son histoire que Lannion arrive en 32e de finale. On avait eu d'ailleurs lors de la qualification le président, hein, Philippe Cousin, le président de Lannion, avec nous en interview en direct. Et donc les Lannionnais accueilleront Toulouse le 8 janvier à 18h à Roudourou. Parmi les autres rencontres qui concernent les clubs bretons, déplacement pour les Merlus à la Châtaigneraie le dimanche aussi à 15h30. Alors pas tout à fait la Châtaigneraie, le match se jouera à La Roche-sur-Yon parce que le stade de la Châtaigneraie n'était pas homologué. Il y avait donc une hésitation entre La Roche-sur-Yon ou Niort. Ce sera à La Roche pour les Merlus. Et puis les Brestois, eux, eh bien, se déplaceront à Avranches, club de National. Ce sera le samedi pour le coup, samedi 7 janvier à 15h30, Avranches-Brest, club de National. Donc deux divisions d'écart pour les Brestois qui se déplaceront au stade René Fenouillère à l'occasion de cette rencontre de 32e de finale de la Coupe de France. Et pour Guingamp, évidemment, l'aventure s'est arrêtée hein, juste avant nos vacances. S'est arrêtée sur la pelouse des Herbiers au 8e tour.
Alors, on va parler du championnat de Ligue 2, évidemment, ce soir, puisque c'est la reprise de ce championnat de Ligue 2. C'est la 16e journée du championnat de Ligue 2 après cette trêve imposée par la Coupe du Monde au Qatar. Plusieurs matchs ce soir, tous les matchs se dérouleront ce soir.
Exactement.
Pour cette 10e journée du championnat de Ligue 2, un match s'est déjà joué et ça continue la débandade pour Saint-Etienne. Encore défait, la lanterne rouge plus que jamais. Saint-Etienne a perdu contre Annecy, but d'écart, mais c'est une défaite quand même. 2-1 pour Annecy face à Saint-Etienne. Annecy menait 2-0, Saint-Etienne est revenu à un quart d'heure de la fin, ça n'a pas été suffisant. 2-1, victoire d'Annecy. Dans le haut du classement, Le Havre, le leader, joue contre son dauphin, contre Bordeaux. Ça se joue en ce moment. On est à la pause, je crois.
Ça vient de démarrer en deuxième mi-temps, 2 minutes de jeu.
1-0 pour Le Havre. Le Havre conforte pour l'instant, en tout cas, sa première place et même prend de l'avance, hein, 4 points d'avance maintenant sur Bordeaux, sur son dauphin bordelais.
7 sur Bordeaux.
7.
Ouais, 7 sur Bordeaux.
Il y en avait déjà 4 avant.
Il y en avait déjà 4. Ah bon. Et alors, l'écart ne sera pas forcément de 7 points avec le deuxième. Ça dépendra de Sochaux,
oui,
hein, notamment.
Il peut y avoir un autre deuxième que Sochaux.
Voilà. Que Bordeaux. Mais pour l'instant, c'est vrai que les Havrais mènent 1-0 et sont en train de prendre un petit peu le large. Et Saint-Etienne hein, qui reste bon dernier de ce championnat de Ligue 2 avec 11 points, ça fait 4 points de retard sur le premier non relégable, mais les autres n'ont pas joué au-dessus, donc attention, il pourrait y avoir un écart assez conséquent hein, ce soir à l'issue des matchs de 21h.
Comment va cette équipe de Guingamp? Guingamp, on l'a dit, se déplacera donc ce soir en direct sur Radio Bonheur à 21h à Nîmes. Comment va cette équipe guingampaise qui n'était pas en grande forme avant la trêve hein. Guingamp avait beaucoup de mal à gagner avant cette pause.
Oui, Guingamp qui est resté sur une élimination aux Herbiers en Coupe de France, qui en championnat n'arrive plus à gagner non plus. La dernière victoire, ça remonte à la 9e journée contre Saint-Etienne, 2-1. Alors la trêve a permis déjà d'avoir quelques jours de vacances, ensuite de reprendre, alors pas de stage, hein, on a pu l'entendre pour Brest ou Lorient, il y a eu des stages à l'étranger. Les Guingampais sont restés au Pro Park à Guingamp et puis ont ensuite enchaîné 3 matchs amicaux avec 3 victoires à la clé. L'une face aux Boliviens du club Always Ready, 4-0. L'autre face au Havre, le leader de la Ligue 2, 2-1. Et la dernière face à Lorient, 1-0 avec un but de Dylan Louisère. 3 victoires, ça reste des matchs de préparation. Il n'y a pas l'enjeu de la compétition, mais quand même, ça apporte un peu de confiance, surtout vu la série hein, sur laquelle restaient les hommes de Stéphane Dumont. Et puis il y a eu aussi un peu de mouvement, mine de rien, au sein de l'effectif. L'arrivée d'Amin El Ouazzani, attaquant de 21 ans, arrivé de Bourg-en-Bresse-Perona en national, un attaquant qui a été formé à Grenoble, qui a découvert le national ensuite, 10 buts en un peu plus de 50 matchs dans ce championnat. Un joueur assez rapide hein, d'ailleurs, qui va être un profil différent de ce qu'on peut avoir avec Gaëtan Courtais ou Baptiste Guillaume. Et puis on a eu des noms aussi de joueurs qui pourraient débarquer à Guingamp. Le défenseur Loïc Mbesso, formé au PSG, qui évolue maintenant à Nottingham Forest, pourrait arriver, défenseur central. Il y a eu la piste Quentin Boigard aussi pour du côté de Lorient, mais pour l'instant, rien n'a été officialisé. Là, ça aurait été plutôt peut-être pour un prêt de 6 mois, mais rien là encore de certain. En revanche, Stéphane Dumont l'a annoncé, il va y avoir... sans doute 2-3 départs de jeunes joueurs en prêt. Adi Camara et Arthur Vitelli, les défenseurs, et puis l'attaquant Mehdi Bahalouj, trois hommes qui d'ailleurs ne sont pas dans le groupe ce soir pour le déplacement à Nîmes, et trois hommes qui pourraient finir la saison ailleurs que Guingamp, sans doute en national, pour s'aguerrir aussi chez les seniors et revenir à Guingamp ensuite à l'issue de la saison.
Voilà, ce sera donc en direct sur Radio Bonheur tout à l'heure, prise d'antenne à 20h30, juste après le magazine, 20h32, 20h33, juste après le magazine des déchaînés du football. Nîmes contre Guingamp, match à 21h. Il y aura d'autres rencontres pour cette 16e journée du championnat de Ligue 2. Il y aura aussi Pau qui jouera contre le Paris Football Club, Metz contre Niort, Dijon contre Laval, Bastia contre Caen, Sochaux contre Rodez, QRM Quevilly, Rouen Métropole contre Grenoble et Valenciennes contre Amiens. Tous ces matchs avec le but par but tout à l'heure en direct sur les ondes de Radio Bonheur. Alors ça va peut-être mieux, on va le découvrir tout à l'heure pour cette équipe guingampaise. Ça va peut-être mieux avec ces victoires, avec ces matchs amicaux pendant la trêve, mais est-ce qu'on a réussi aussi à se requinquer psychologiquement dans cette équipe qui ne gagnait plus?
Visiblement oui quand même, parce qu'en plus Guingamp a récupéré des joueurs blessés, ça c'était aussi important, il y en avait eu énormément, 8 à un moment donné, 8 blessés plus 1 suspendu, il y avait 9 blessés sur une rencontre, 8 blessés, le retour notamment donc de Mehdi Merghem qui est dans le groupe ce soir, les retours aussi de Donatien Gomis qui était là déjà pour le match aux Herbiers mais qui va donc pouvoir postuler une place également ce soir. Et puis globalement Stéphane Dumont a un petit peu aussi revu ses plans, on avait vu une défense à 3 s'installer depuis le mois de janvier l'année dernière, depuis presque un an maintenant, défense à 3 défenseurs centraux, un 5-3-2 ou 5-2-1-2, ça dépendait un petit peu du rôle des uns et des autres, notamment de Barthélemy ou de Livolan par exemple, mais il est revenu sur une défense à 4 Stéphane Dumont, par rapport aux blessés bien sûr qu'il y a pu avoir, et peut-être aussi par rapport à une forme d'adaptation, parce qu'on l'a vu, dès qu'il y a eu 1, 2, 3 blessés, le système a été en difficulté. Guingamp s'est vite retrouvé fragilisé, on a vu une défense de Guingamp qui a tout le temps bougé depuis le début de la saison, je suis pas sûr qu'il y ait eu une seule fois les 5 mêmes joueurs alignés derrière. Ça a commencé dès la première journée où Stéphane Quimper était suspendu, et puis il y a eu les blessures de Pierre Lemonnier, de Mathis Rioux notamment, de Maxime Civis qui s'est fait opérer cette fois et qui reviendra courant février sans doute dans l'équipe de Guingamp. Donc un changement de système, quelque chose peut-être de plus basique au départ sur le papier, mais qui va peut-être apporter un peu plus aussi de solidité à cette équipe de Guingamp qui en avait besoin pour retrouver de la confiance, retrouver une certaine ossature, parce que on l'a dit avant la trêve, ça a été très compliqué pour les Guingampais qui ont été longtemps sans marquer.
Ils ont perdu contre Le Havre le dernier match.
Oui.
Il y avait eu des matchs nuls, des défaites aussi auparavant. Dijon, je crois me souvenir de Dijon.
Il y a eu match nul à Dijon. Sur les 7 derniers matchs, il n'y a aucune victoire pour Guingamp en championnat. 3 défaites et 4 matchs nuls. Et puis, il y avait eu surtout cette série là où l'enchaînement Niort, Rodez, Annecy, en une semaine où Guingamp avait fait 2 nuls et une défaite 4-0 contre Annecy.
Alors que c'était la période où Guingamp pouvait vraiment basculer dans le haut du classement, vraiment dans le top 5, et c'est tout le contraire qui
s'est
produit.
Même mieux que le top 5, parce qu'en gagnant le 4 octobre contre Rodez, Guingamp était premier de Ligue 2. Sauf que Guingamp n'avait pas gagné, donc était resté 3-4e, et puis derrière, défaite 4-0 contre Annecy, défaite à Valenciennes, etc.
Cette contre-performance depuis maintenant presque 2 mois et demi, elle est liée aux absences, c'est votre avis?
Oui, en bonne partie. Alors, pas uniquement, mais ça c'est un des points qui a joué. Un autre point, c'est que peut-être certains joueurs aussi ont, à un moment donné, peut-être surperformé, étaient un petit peu au-delà de ce qu'ils pouvaient réaliser, ont été vraiment au maximum d'eux-mêmes pour aller puiser dans les réserves et réaliser de très bonnes performances. On a vu Jérémy Livolan, par exemple, sur le dernier mois et demi, être plus en difficulté. Il y en a eu d'autres, c'est pas le seul. On a vu
l'ancien Gaëtan Courtais aussi.
Stéphane Quimper, ouais, qui était très bon
en début de saison et puis qui s'est un peu
qui a été aussi en difficulté là,
ensuite.
Gaëtan Courtais qui avait beaucoup donné dans ses matchs, mais qui là aussi a eu en plus de mal un petit peu avant la trêve à exister devant le but notamment, et tout ça mis bout à bout, ça a amené une équipe de Guingamp à être un peu en difficulté, à ne plus réussir à enchaîner les matchs. Alors il y a eu des retours de blessures, on pense à Louvambo par exemple, mais qui s'est très vite reblessé. Même chose pour Mehdi Merghem qui a fait une entrée en jeu puis une titularisation contre Bastia et il s'est blessé dans la foulée. Rien n'a vraiment tourné rond sur cette série-là. À cela, on peut ajouter la recrue qui avait été, qui était attendue depuis le départ de Kathleen et qui n'est jamais arrivée finalement avant la trêve. Donc Guingamp a eu beaucoup de faits contraires. Stéphane Dumont a dû faire face à beaucoup de vents contraires sur ce mois et demi notamment. Et à l'arrivée, bon, ce n'était qu'une demi-surprise finalement de voir Guingamp marquer le pas tant les événements étaient trop compliqués à gérer.
En avant, Guingamp se déplace à Nîmes, c'est ce soir en direct sur Radio Bonheur, prise d'antenne à 20h30. Une petite pause, on reparle de ce match qui va débuter dans quelques minutes sur Radio Bonheur.
Hé, Jérôme Anthony, vous faites quoi ?
Je suis chez Jiffy et j'achète ! J'achète tout le blanc à moins 50%. J'achète les coussins à moins 50%, les couettes moins 50%, les plaids moins 50%, les rideaux moins 50%, les parures de lit moins 50%. Ah, j'achète ! Et ça va me faire un super bon d'achat.
Remise en bon d'achat pour les clients VIP, conditions et durée de l'offre sur Jiffy.fr.
Vous passez vos vacances en Bretagne et là vous écoutez forcément Radio Bonheur, puis vous retournez ensuite à Paris ou en Île-de-France ? La solution est simple. Pour continuer d'écouter Radio Bonheur, retrouvez gratuitement votre radio en direct en utilisant la nouvelle norme de radio DAB. Toutes les voitures neuves sont équipées depuis décembre 2020. Et pour la maison, vous pouvez vous équiper d'un récepteur DAB pour quelques dizaines d'euros. Écologique, gratuite, pratique et anonyme, la réception DAB, c'est la meilleure solution pour écouter Radio Bonheur à Paris et en Île-de-France. Radio Bonheur 20h18, c'est la reprise des déchaînés du football. Ce soir avec les clubs pro qui redémarrent dès ce soir avec le championnat de Ligue 2. Avant de parler peut-être de la façon dont va jouer cette équipe de l'En Avant Guingamp ce soir en se déplaçant à Nîmes, un petit coup d'œil sur les matchs en cours. Nancy a donc battu Saint-Etienne 2-1.
Annecy est un petit peu plus bas maintenant.
Annecy a battu Saint-Etienne 2-1 et pour l'instant ça joue toujours. C'est reparti depuis quelques minutes en seconde période entre Le Havre et Bordeaux. On en est à la 55e minute de jeu et toujours 1-0 pour Le Havre face à Bordeaux. Les 8 autres rencontres à vivre également ce soir avec le but par but en plus du match en direct entre Nîmes et Guingamp. Alors comment va jouer cette équipe guingampaise avec ses nouveaux apports, ses retours?
Ben, on a dit abandon de la défense à 5 ou à 3 centraux suivant un peu les uns et les autres pour évoluer dans un 4-1-2-1-2. Alors ça peut ressembler à un 4-3-3 mais les rôles sont un peu différents dans le sens où on va avoir vraiment donc 4 défenseurs, ça c'est sûr, un milieu récupérateur, deux autres au-dessus qui seront un peu plus offensif, au moins l'un des deux. Et puis on va se retrouver avec du coup un numéro 10 qui sera sans doute et probablement Mehdi Merghem ou Maxime Barthelmé, hein, ça va dépendre de qui choisit de titulariser ce soir Stéphane Dumont. Et puis donc deux attaquants de pointe, c'est ce qu'il avait fait un petit peu Stéphane Dumont sur une petite série. Il avait avec sa défense à 3 joué soit en 3-4-3 soit en 5-2-1-2 ou 5-3-2. Voilà, vous comprenez, avec deux attaquants de pointe au lieu d'un. Quand il y avait qu'un seul attaquant de pointe, l'année dernière c'était Pierrot, cette année c'était Guillaume ou Courtais, mais on a vu parfois Livolant être associé à Courtais devant et avoir donc Barthelmé en soutien. Et bien c'est un petit peu ce qu'on pourrait retrouver ce soir et sur les matchs à venir, Merghem ou Barthelmé en soutien et Livolant devant avec Courtais ou Guillaume ou El Ouazani, puisque la recrue est aussi dans le groupe hein, ce soir. Amine El Ouazani, pas forcément pour être titulaire, on le saura, la compo doit être tombée, je ne l'ai pas encore vu, mais on va se retrouver sur ce type de,
schéma
pour en avant. La compo, voilà, je l'ai à l'instant et c'est Baptiste Guillaume qui sera titulaire devant. On peut d'ailleurs l'annoncer, même si on y reviendra dans l'avant-match, cette composition d'équipe. Basilio dans le but pour en avant donc ce soir. Vincent Manceau sur le côté droit de la défense. Donatien Gomis et Baptiste Roux en charnière avec Stéphane Quimper sur le côté gauche. Devant la défense, on retrouve donc Dylan Louisère et un petit cran devant, on le disait, entre ce 4-1-2, et bien les deux, ce sont Warren Chimbembe et Tristan Mouyumba. En position de numéro 10, Mehdi Merghem, qui va donc retrouver une place de titulaire. Son dernier match, c'était contre Bastia, et le match nul, un but partout, quelques semaines avant la trêve. Et devant, le capitaine Jérémy Livolant, avec Baptiste Guillaume, Stéphane Dumont, qui veut avoir vraiment deux attaquants aussi, parce qu'il trouve que ça fonctionne mieux comme cela, que chacun arrive à mieux s'exprimer devant. C'est vrai qu'on l'a souvent vu hein, sur ces 15 premiers matchs de championnat, Baptiste Guillaume ou Gaëtan Courtais être parfois un petit peu absent finalement devant le but, en tout cas avoir assez peu d'occasions dans les matchs, alors peser à leur manière sur les défenses, oui, mais face au but très peu d'occasions pour eux. Et
Guingamp marque peu de toute façon globalement depuis deux mois. Guingamp
a beaucoup marqué au début,
plus beaucoup à marquer,
et puis ensuite oui, beaucoup moins sur le début de saison. Il y a eu beaucoup de buts, hein, 4-0,
ouais, mais depuis deux mois
départ,
c'est pauvre.
Et depuis deux mois, c'est vrai, il y a surtout eu cette série là avec l'enchaînement de Niort, Rodez, Annecy, Valenciennes, 4 matchs de rang sans marquer, puis le match nul contre Bastia partout, mais où c'est un Bastia qui a marqué contre son camp. Il y a eu vraiment beaucoup de matchs où Guingamp a peiné à marquer et à marquer dans le jeu. Alors la bonne nouvelle pour Guingamp, et c'est ce qu'on soulignait aussi un petit peu avant la trêve, c'est que Guingamp prenait assez peu de buts, mais sur les rares occasions concédées, et notamment surtout même sur coup de pied arrêté, Guingamp flanchait. Et la défense à 4, c'est peut-être aussi pour apporter d'autres repères à cette équipe d'en avant qu'elle est donc remise en place. Sur le banc ce soir hein, du côté de Guingamp, on retrouvera donc le gardien remplaçant Dominique Youfegan, Mathis Riou, Souleymane Diarra, Maxime Barthelmé, Hugo Picard qui a marqué un magnifique but contre le Havre en match amical. Là, il a traversé le terrain sur les 60 mètres, un petit peu à la Lionel Messi là, en pleine
Alors
Coupe du Monde.
Si Guingamp est capable de battre le Havre, le leader, le gros leader de ce championnat de Ligue 2, c'est que Guingamp va être en forme ce soir.
Ouais, mais le Havre, c'est un match amical, hein, c'est différent. Le Havre était peut-être dans une posture aussi un peu autre qu'en championnat, mais oui. Ouais. Ça, en tout cas, ça permet de rassurer. Et les deux autres remplaçants, Gaëtan Courtais et donc Amine El-Ouazani, la recrue arrivée de Bourg-en-Bresse, on le disait, hein, qui a démarré la saison en national. 3 buts sur la phase aller avec Bourg-en-Bresse et arrivé en tant que joker du côté de Guingamp au mois de novembre, le 22 novembre exactement, pour pallier les quelques blessures du côté de Guingamp, renforcer l'effectif de Stéphane Dumont qui maintenant a très peu d'absents finalement, parce qu'il y a Maxime Sivi, oui, il y a Taylor Louvambo, et pour le reste ce sont deux suspendus puisque c'est Jules Godin et Jacques Sioué, un attaquant arrivé l'été dernier.
On n'aura pas l'excuse des absents ce soir.
Voilà, non, il n'y aura pas cette excuse là, même si attention, il faudra quand même que tout ça se mette en route, mais il y a beaucoup moins d'absents que ce ne fut le cas lors des dernières semaines. Un mot sur Jacques Sioué qui est un attaquant, puisqu'on parlait de Mercato aussi il y a un instant. Il est arrivé l'été dernier, mais il vient de signer la semaine dernière son premier contrat professionnel avec en avant. Il a marqué quelques buts, 4 buts avec la réserve sur ce début de saison. Il a même connu un petit peu la Ligue 1 avec Dijon il y a 2 ans, 5 matchs, le National la saison passée avec Annecy, et il est arrivé en National 2 avec la réserve de Guingamp pour donc monter maintenant jusqu'à l'équipe professionnelle en Ligue 2. Il a signé son premier contrat pro, Jacques Sioué, jusqu'en 2024 exactement pour l'attaquant de Guingamp qui porte le numéro 17, mais il est suspendu et donc absent pour le match de ce soir. On le retrouvera très rapidement hein, maintenant du côté de Roudrou notamment, et dans l'équipe de Stéphane Dumont. Il sera absent ce soir, mais l'équipe de Stéphane Dumont, elle, va jouer dans un tout petit peu plus d'une demi-heure maintenant, face à Nîmes, et va retrouver quelques anciens Guingampais aussi. On y viendra tout à l'heure.
Giresse, ouais, bien sûr.
Thibaut Giresse notamment.
Ouais. Alors ce match ne sera pas commenté par Pierre-Henri Dufay. C'est Pierre-Henri Dufay qui aurait dû commenter ce match. Il est dans son lit, il nous écoute dans son lit, Pierrot.
Bon, on l'embrasse.
On lui souhaite un prompt rétablissement. Début de la rencontre à 21h en direct de Nîmes ce soir entre Nîmes et Guingamp. Ce sera un match à vivre et commenté pour vous par les déchaînés du football sur Radio Bonheur. Dans quelques minutes, nous prendrons l'antenne pour ce match à 20h30, dans un petit peu plus de 5 minutes. On marquera certainement une petite pause musicale pour faire l'enchaînement entre le magazine et cette 16e journée du championnat de Ligue 2. Donc on va dire les antennes aux alentours de 20h35 plus probablement. Il y aura d'autres matchs aussi que nous suivrons et que nous vivrons en direct avec le but par but de cette 16e journée du championnat de Ligue 2 sur Radio Bonheur en direct. Il y aura Pau contre le PFC, Metz contre Niort, Dijon contre Laval, Bastia contre Caen, Sochaux contre Rodez, hein, Sochaux équipe en forme également dans ce championnat, QRM, oui. Quevilly, Rouen Métropole contre Grenoble, et puis Valenciennes contre Amiens, en plus évidemment du match en intégralité entre Nîmes et Guingamp. Un petit coup d'œil sur ce qui se passe en direct en ce moment au Havre, oui. Gaëtan.
Oui, toujours un but à zéro pour le Havre face à Bordeaux. Le but de Richardson à la 9e minute. Le Havre qui pour l'instant conforte sa place de leader devant le 2e Bordeaux. Mais en cas de défaite, Bordeaux pourrait perdre sa place de dauphin au profit de Sochaux ou de Grenoble. Les deux clubs sont en embuscade juste derrière. Et puis à noter que dans le match de 17h, Annecy a battu Saint-Étienne 2-1. On le rappelle, doublé de Moïse Saïdion qui avait marqué aussi contre Guingamp il y a quelques semaines, doublé au 2e et 51e, et c'est l'ancien Lorientais Léo Petro à la 76e qui a réduit l'écart pour Saint-Etienne, mais une réduction de l'écart insuffisante pour glaner au moins un point. Saint-Etienne qui reste dernier et qui pourrait être presque décroché ce soir par le premier non relégable.
Incroyable, hein, Saint-Etienne qui jouait en Ligue 1, on se souvient, il y a encore quelques mois seulement, au mois de mai.
La saison passée.
Il y a 6 mois, 7 mois, Saint-Etienne était encore un club de Ligue 1. Et là, ils vont tout droit vers le championnat national. Et on sait qu'en national, c'est aussi très dangereux parce qu'on a 6 clubs sur 18 qui descendent. Ouais. Donc, Saint-Etienne en national 2 dans 2 ans.
Peut-être pas quand même, mais c'est clair que là, il y a une série qui n'en finit plus du côté de Saint-Etienne, qui a recruté un petit peu, notamment Gaëtan Charbonnier qui est arrivé, l'ancien Brestois, en provenance d'Auxerre. Il a participé à la fin de rencontre. Oui, il a joué 33 minutes ce soir, mais bon, pour Saint-Etienne c'est encore beaucoup trop difficile dans ce championnat. Il y a eu aussi énormément de changements l'été dernier en interne, c'est encore très compliqué. Laurent Batless était même un petit peu sur la sellette, l'entraîneur. Là pour l'instant il est toujours présent, mais pour combien de temps? Il y a vraiment beaucoup trop d'interrogations aussi du côté de Saint-Etienne, et la défaite de ce soir à Annecy ne va évidemment pas arranger les choses pour la lanterne rouge de Ligue 2.
Merci Gaëtan. On se retrouve dans quelques minutes, une toute petite pause musicale. Et puis, si vous voulez vivre ce match avec nous ce soir entre Nîmes et Guingamp, si vous êtes sur nos émetteurs FM dans les Côtes d'Armor, pas de souci. La soirée foot continue avec le AG, avec l'En Avant Guingamp. Si vous n'êtes pas dans les Côtes d'Armor, eh bien vous allez sur le site internet de Radio Bonheur. Il faut absolument aller sur le site internet de Radio Bonheur. Les autres flux ne diffuseront pas ce match entre Nîmes et Guingamp. Donc vous allez sur le www.radiobonheur.com. Vous verrez, il y a un article qui concerne ce match. Et en bas de cet article, il y a un player. Vous cliquez sur la petite flèche et vous pourrez comme ça nous suivre et continuer la soirée foot avec nous. Merci Gaëtan. Bonne soirée.
Bonsoir.